Laudetur Jesus Christus.
Les Libanais, frappés de plus en plus par la détérioration de leur économie dans la banlieue de Beyrouth, ils sont de plus en plus nombreux à avoir recours à un centre médico-social géré par des sœurs. Reportage juste après les titres. Sergueï Lavrov, hier à Washington, le ministre russe des Affaires étrangères y a rencontré son homologue américain Mike Pompeo ainsi que Donald Trump, avec au centre de l'attention de tous les élections américaines de 2016 et de 2020. Après une nouvelle journée de mobilisation dans la rue, le gouvernement français doit détailler son projet de réforme des retraites aujourd'hui. Le Premier ministre doit prendre la parole alors que les syndicats sont déterminés à aller jusqu'au bout. Le président turc prêt à envoyer des troupes en Libye pour appuyer le gouvernement d'union nationale de Tripoli. Recep Tayyip Erdogan s'appuie sur l'accord de défense récemment signé avec les autorités libyennes. Les océans, nous en sommes tous débiteurs, mais ils souffrent du réchauffement climatique. Nous verrons qu'il faut en prendre soin. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. Paris accueille aujourd'hui une réunion du groupe international de soutien au Liban. La crise économique à l'origine du soulèvement populaire depuis plus de 50 jours doit notamment y être abordée. La réunion est critiquée par des intellectuels libanais qui redoutent qu'elle offre un blanc-seing à la classe politique décriée. La dégradation économique pousse de plus en plus de Libanais à chercher de l'aide comme au dispensaire intercommunautaire. C'est un centre médico-social géré par des communautés religieuses féminines dans la banlieue de Beyrouth. Le reportage sur place de Laure Stéphane.
Au croisement de quartiers populaires de la banlieue est de Beyrouth, le hall du dispensaire intercommunautaire est plein. Femmes et hommes attendent leur tour pour recevoir un peu de nourriture. Parmi la foule, beaucoup de Libanais. Sœur Marie-Justine, responsable.
Les Libanais ont beaucoup besoin de nourriture, de vêtements. Les dernières semaines ont beaucoup dégradé. C'est le cri qui vient d'un étranglement de la situation actuelle.
Les prix de denrées alimentaires ont augmenté. Des Libanais perdent leur travail. D'autres ont vu leur salaire diminuer de moitié pour pouvoir conserver leur emploi. Une dégringolade très rapide, sœur Marie-Justine.
On ne sait pas. La situation commence à dégringoler de cette façon. Ils viennent parce qu'ils ont besoin. Et on voit maintenant la quantité a beaucoup augmenté quand même.
C'est grâce en grande partie à des donateurs libanais que les religieuses viennent en aide aux plus démunis dans ces quartiers où vivent aussi réfugiés syriens et migrants, eux aussi confrontés à la dégradation économique. Beyrouth, Laure Stéphane, Radio Vatican.
Aux États-Unis, la procédure de destitution de Donald Trump se précise. Hier, les démocrates à la Chambre des représentants ont retenu deux chefs d'accusation contre le président, abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès dans le cadre de l'affaire ukrainienne. Des chefs considérés comme ridicules par le principal intéressé. En attendant, le vote formel aura lieu la semaine prochaine. Donald Trump pourrait ainsi devenir le troisième président aux États-Unis à être jugé. Pendant ce temps, Donald Trump a reçu à Washington Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, qui a également rencontré son homologue américain Mike Pompeo pour une visite controversée. De nombreux sujets ont été abordés, Syrie ou Corée du Nord, traité de désarmement, relance des relations entre Washington et Moscou, le tout dans un contexte particulier, donc celui de l'affaire ukrainienne et des accusations d'ingérence qui pèsent sur la Russie depuis la dernière présidentielle. Un sujet qui a donné lieu à une mise en garde et à des déclarations contradictoires. À New York, Loïc Loury.
Je viens d'avoir un très bon entretien avec Sergueï Lavrov. Nous avons discuté commerce, Iran, Corée du Nord, traité d'armement et ingérence électorale. Voilà comment Donald Trump résume sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères. Une affirmation pourtant contestée par l'intéressé. En fait, dit Sergueï Lavrov, nous n'avons même pas parlé d'élection. Le sujet est sensible. La Russie est accusée d'avoir interféré dans la dernière présidentielle. Elle est suspectée de vouloir faire de même en 2020. Des accusations infondées, affirme le représentant russe, violemment repris en conférence de presse par son homologue américain Mike Pompeo. J'ai été clair, dit celui-ci, c'est inacceptable. Si la Russie ou tout autre acteur prenait des mesures pour saper nos processus démocratiques, nous riposterions, affirme le secrétaire d'État. Une façon de faire taire les critiques, Donald Trump est accusé de dérouler le tapis rouge à la Russie de Vladimir Poutine. Le président, lui, a souvent semblé minimiser cette accusation. Accusation longtemps soupçonnée, il faut dire, dans le cadre de l'enquête russe, d'avoir lui-même orchestré cette ingérence. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
Investiture hier à Buenos Aires du nouveau président argentin Alberto Fernandez. Il a décrit son pays comme vivant une catastrophe sociale, référence à la crise économique qui frappe l'Argentine depuis plus d'un an. Il a appelé les Argentins à construire un nouveau contrat social solidaire et à dépasser le mur de haine et de rancœur qui divise le pays. Il a aussi prévenu le FMI, assurant que l'Argentine a la volonté de payer sa dette extérieure, mais qu'elle n'a pas les moyens de le faire, demandant au fond d'avoir une relation constructive en vue de favoriser la croissance. C'est un gouvernement sous la pression des syndicats et de la rue qui s'apprête à préciser son projet de réforme du système des retraites. En France, le Premier ministre Édouard Philippe doit prendre la parole aujourd'hui à la mi-journée pour donner des détails très attendus, car la mobilisation, si elle a été deux fois moins forte qu'au premier jour du mouvement de contestation, se poursuit, et ce, pour le sixième jour consécutif. Les détails de Marie-Christine Bonzon.
À Paris et à travers la France, les fonctionnaires et les salariés du secteur privé qui ont manifesté hier étaient quand même 885 000 selon les syndicats ou 339 000 selon le ministère de l'Intérieur. Nombre de banderoles brandies par des manifestants s'adressaient directement au chef de l'État. Macron, président des patrons et « qui sème la misère récolte la colère » pouvait-on lire et entendre sur les pancartes et parmi les slogans. Le président, dans sa première réaction publique à la contestation, a qualifié le projet sur les retraites de « réforme indispensable » pour le pays. Son Premier ministre va prononcer un discours en milieu de journée. Édouard Philippe promet de présenter alors le projet en détail. Un projet qu'il a décrit hier soir comme visant à créer, et je cite, « une retraite plus simple, plus juste et pour tous ». Mais s'exprimant devant son groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, le chef du gouvernement a prévenu que son discours ne contiendra pas d'annonce magique qui puisse faire cesser le mouvement de contestation. Et de fait, la grève continue aujourd'hui sur le réseau ferroviaire et dans le métro parisien en particulier, à un niveau de mobilisation similaire au jour précédent. En outre, l'intersyndicale appelle à des actions locales pour demain et à une manifestation nationale à Paris pour mardi. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Dernier jour de campagne en Grande-Bretagne avant des législatives décisives pour l'avenir européen du Royaume-Uni. Hier, le Premier ministre Boris Johnson a mis en garde contre une nouvelle paralysie du Brexit en cas de victoire des travaillistes. Ces derniers ont eux intensifié leurs attaques contre le gouvernement sortant en insistant sur le système de santé. La Libye est le théâtre de la rivalité entre plusieurs pays, ce n'est pas nouveau, mais ces oppositions pourraient prendre une nouvelle dimension avec l'envoi de soldats turcs pour soutenir le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj. Le président turc est prêt en effet à prendre cette décision, et ce, au nom d'un accord qu'il a signé récemment avec les autorités de Tripoli. À Istanbul, les précisions d'Anand Loer.
C'est la deuxième fois en deux jours que Recep Tayyip Erdogan évoque cette hypothèse qui semble par conséquent de plus en plus probable. Le président turc s'est donc dit prêt à envoyer des personnels militaires en Libye si cette dernière formule une telle demande. Par Libye, il faut entendre le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, le seul que la Turquie reconnaisse et soutienne face à son rival de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar. Pour justifier sa proposition, Recep Tayyip Erdogan fait valoir un accord de coopération militaire et sécuritaire signé fin novembre lors d'une visite à Istanbul de Fayez al-Sarraj. Le président turc fait aussi remarquer que les forces de Khalifa Haftar bénéficient du soutien d'une compagnie de sécurité russe, alors même que Moscou dément la présence de mercenaires russes sur le sol libyen. Ces derniers mois, sans le reconnaître officiellement, les autorités turques ont multiplié les livraisons d'armes aux forces du gouvernement libyen d'union nationale, notamment des tanks et des drones armés. En octobre, un rapport confidentiel d'experts de l'ONU accusait, sans surprise, la Turquie de violer l'embargo sur les armes imposées depuis 2011 à la Libye. À Istanbul, Anne Loire pour Radio Vatican.
Attaque à Mogadiscio hier soir contre un hôtel du centre-ville mené par un commando des Shebab. 5 personnes ont été tuées, 3 civils et 2 membres des forces de sécurité somaliennes. 11 personnes ont également été blessées. Les 5 assaillants ont été abattus. Au Gabon, le chef de l'opposition, Jean Ping, dénonce la monarchisation de la République. Il a réagi hier à la nomination de Noureddine Bongo Valentin, 27 ans et fils du président Ali Bongo, et ce, au poste de coordinateur des affaires présidentielles. Il y a 10 ans, Ali Bongo avait lui-même succédé à son père Omar, qui régna sur le pays pendant 42 ans. Les enquêteurs internationaux chargés par le gouvernement de Hong Kong d'examiner les violences policières contre les militants pro-démocratie jettent l'éponge. Ils assistaient l'autorité de surveillance de la police du territoire autonome, mais ils estiment que pour avoir une enquête crédible, il faut qu'un organisme totalement indépendant de la police soit en charge de ces investigations. Devant l'absence d'avancée sur ce point avec le pouvoir hongkongais, ils ont donc décidé de renoncer à leur tâche. La COP25, actuellement en cours à Madrid, accorde une place centrale aux océans. Leur immensité en a fait aux yeux de tous un élément intouchable. Et pourtant, les océans souffrent de la surpêche, de la pollution avec ces continents de plastique, mais également du réchauffement climatique. Les eaux montent, s'acidifient, menaçant tout un écosystème. Samedi dernier, l'Union internationale pour la conservation de la nature soulignait dans un rapport un phénomène peu traité. Le taux d'oxygène des océans a diminué de 2% entre 1960 et 2010, et le stock pourrait encore diminuer. À Madrid, les États sont appelés à agir pour réduire immédiatement et de manière substantielle leurs émissions. Christian Bûcher est directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Il revient sur les menaces que l'homme fait peser sur l'océan alors qu'il en est son débiteur.
La mer, c'est elle, en quelque sorte, qui permet à la planète de vivre véritablement. Le plus formidable des services de l'océan, c'est d'absorber nos émissions de CO2. L'océan absorberait quelque 27% de nos émissions de CO2. C'est-à-dire, si l'océan ne rendait pas ce service incroyable, nous aurions tous beaucoup plus de problèmes de défense immunitaire, de maladies allergiques. Sauf que, depuis le temps que les océans absorbent nos émissions de CO2, les océans s'acidifient. Et l'acidification des océans, c'est vraiment, vous savez, la menace majeure. À tel point qu'aujourd'hui, les océans sont en passe de connaître une rupture d'équilibre. Un exemple très simple, les coraux, vous le savez, sont en train de blanchir. Et quand vous savez que les coraux constituent un formidable habitat qui héberge peut-être 30% de la vie océanique, on voit bien les menaces aujourd'hui que nous faisons peser sur les océans, mais une menace qui est en passe de se retourner contre l'homme. Vous savez, l'océan a vécu à 362 degrés, nous à 42 degrés, nous les humains nous disjonctons. Je crois qu'il faut mettre des choses en perspective. L'océan, il s'en sortira toujours, c'est l'homme qui ne pourra plus vivre.
À Madrid, on réfléchit à une potentialisation des capacités de l'océan à absorber par exemple le CO2 avec une fertilisation pour augmenter le plancton. On a aussi entendu parler d'une mousse à déposer sur la surface de l'eau pour réverbérer les rayons du soleil. Qu'est-ce que vous pensez de ces innovations ?
Oui, on a même imaginé de même pourquoi pas mettre des balles de tennis ou des balles de golf qui étant blanches renverraient la lumière solaire, etc. Je veux dire, il faut pas jouer aux apprentis sorciers. Pourquoi chercher des solutions aussi compliquées alors que les solutions, elles sont évidentes à la portée de la main, même si c'est pas celles qu'on veut entendre. Il faut que l'homme émette aujourd'hui infiniment moins d'émissions de CO2.
Concrètement, est-ce qu'il faudrait pas aussi, pour protéger les eaux, adopter finalement des règles, un statut pour la pleine mer qui n'existe pas encore, afin que les États se responsabilisent et aussi se coordonnent.
Alors ça, c'est absolument certain. Moi, l'ONU a commencé à discuter, effectivement, il y a quelques mois, le statut de la haute mer, parce que au-delà de 200 000 marins, au-delà, en gros, de 372 kilomètres, après, c'est le premier arrivé, le premier servi. Il faut bien considérer que la mer, au-delà des espaces territoriaux, au-delà des espaces nationaux, la mer, c'est le bien commun de l'humanité. Il faut considérer la haute mer comme un bien commun, il faut que l'ONU travaille dessus, il faut modifier le droit de la mer pour créer dans les eaux internationales eh bien, des zones de réserve. Encore une fois, nous n'aurons pas d'océan de rechange, donc il faut absolument avancer avec discernement, respecter cette mer pour l'avenir.
Vous insistez souvent aussi sur le potentiel encore méconnu des océans.
Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de détruire un univers qu'on ne connaît pas peut-être à plus de 3%. Et vu que la mer, c'est 80% de la biodiversité terrestre, que ça soit un scandale écologique, bon, tout le monde est à peu près d'accord, mais ce qu'on ne mesure pas, c'est un non-sens économique. On est en train de détruire un univers qu'on ne connaît pas et dont on aura besoin de plus en plus pour notre santé, pour notre bien-être. Et vous savez, même allons dans un autre sens, si on a un autre regard sur la mer, si on s'émerveille, on se rend compte que la mer, la nature est même en avance sur nous en termes de recherche et développement. Tout un tas d'organismes savent faire des choses que nous, humains, nous ne savons pas faire encore. Prenez par exemple la moule. La moule sécrète une forme de colle qu'on appelle le byssus, qui est aujourd'hui la colle que nous connaissons la plus costaud, qui marche de l'eau de mer et qui est supérieure à toutes les colles que nous savons faire. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples à l'infini. La nature est en avance sur nous, plutôt que de la détruire, plutôt que de ne pas la considérer. Si on la regardait avec émerveillement, si on la regardait avec amour, non seulement on la préserverait, mais elle nous permettrait de faire des bons en termes économiques, voire même en termes de bien-être, tout à fait conséquents.
Interrogé par Marie Duhamel, Christian Bûcher, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h, heure de Rome. D'ici là, une très bonne journée à toutes et à tous.